BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine au menu, quel est le rôle des entreprises dans la campagne de vaccination? C'est la question qu'on va poser à la DRH d'AXA France. Les frais professionnels évoluent, est-ce que vous préférez qu'on vous rembourse votre passe Navigo ou plutôt qu'on finance la fibre chez vous? C'est une question qu'on va poser à Karim Jouini, le fondateur d'Expansia, et il a mené une étude sur les frais professionnels. Et enfin, LinkedIn, il faut y être. Et pas que tout le monde soit au courant, comment on fait quand on cherche un job et qu'on veut être discret sans que son boss voit qu'on est en alerte? C'est la question qu'on va poser à Karine Van Der Schrick. Elle est spécialiste de la recherche d'emploi. Happy Boulot Le Mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est la DRH d'AXA France, Diane Deperroy. Bonjour.
Bonjour.
AXA, c'est 13 000 salariés en France, pour ceux qui dépendent directement d'AXA. 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un mastodonte, évidemment, de l'économie française. Vous travaillez aujourd'hui 100% quasiment en télétravail. Ça se passe bien? Ça commence à bien se structurer?
Nous sommes à la fois service essentiel, donc les équipes commerciales sont en capacité d'être sur le terrain. Et en même temps, nous sommes à 98% en télétravail. Ça se passe bien. On avait l'habitude, hein, parce que avant le confinement, on était déjà à 60% de gens qui pratiquaient en moyenne une journée de télétravail. Donc, on avait appris à gérer sans papier, on avait les bons outils informatiques, on avait les bons réseaux et on avait déjà lancé des formations au management à distance.
Mais une journée et toute la vie, quand même, il y a...
Alors, il y a un énorme gap. Et d'ailleurs, nos collaborateurs en ce moment sont très heureux parce qu'on permet de faire les réunions de rentrée sur site, des réunions de reprise pour lancer l'année 2021. Et il y a une grande satisfaction sur le sujet. Et on aimerait pouvoir...
Donc, il y a des retours par-ci, par-là au bureau pour essayer de se voir.
Ouais. Exactement. Juste pour les réunions de rentrée, un peu dans la tolérance qui nous a été ouverte
d'une journée par semaine,
voilà, par le ministère du Travail. Et puis, nous aimerions à terme, quand on pourra, remettre en place les rotations qu'on avait organisées. Il y avait les équipes bleues, les équipes rouges qui venaient 2 à 3 jours par semaine, toutes les semaines. Et ça, les collaborateurs nous le réclament, mais pour le moment, c'est compliqué.
On est début janvier, la stratégie vaccinale du gouvernement se met en place petit à petit, à la vitesse que l'on connaît. Quel est le rôle d'une entreprise? Quel rôle peut avoir une entreprise comme AXA ou toutes les autres grosses entreprises dans la stratégie vaccinale? Est-ce qu'il faut dire, nous, on est pour, nous, on est contre, nous, on va s'y mettre?
Alors, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on vaccine contre la grippe. Et c'est régulier, les collaborateurs reviennent. Et grosso modo, on vaccine à peu près 25% de nos collaborateurs en Île-de-France car on a un service de santé du travail autonome.
Donc, quand vous dites on vaccine, c'est-à-dire que chez AXA,
il y a des... Voilà, les médecins du travail, du service de santé autonome, vaccinent grosso modo 25% des collaborateurs tous les ans. Donc nous, on se propose de faire partie de l'effort national, de proposer à nos collaborateurs cette vaccination Covid lorsque les conditions seront réunies, mais on a les cabinets médicaux, on a l'espace, on a la volonté de le faire et de proposer cette couverture vaccinale. Après, il faut qu'on puisse avoir l'autorisation que les médecins du travail puissent le faire et puis les doses pour pouvoir vacciner.
Donc, pour vos propres salariés, ça pourrait passer directement à travers vous sans engorger les autres centres?
Exactement, exactement. On est prêt. Il faut juste que les conditions logistiques soient réunies, mais on a la volonté de le faire et on sait que les collaborateurs sont très demandeurs.
Alors c'est ce que j'allais vous demander, est-ce que ça correspond à une volonté de vos collaborateurs ou pas, ou finalement c'est faire rentrer un débat extérieur au sein de l'entreprise?
On l'a fait avec la vaccination antigrippale, les collaborateurs volontaires viennent, grosso modo il y en a un quart qui en profite. Bien, proposer la vaccination anti-Covid, on le fera de la même façon, en anonymat, en volontariat.
Parce que ça peut créer un débat au sein de votre entreprise, à la machine à café, en disant, toi, tu reviens au travail, tu n'as pas été vacciné, c'est un sujet.
Alors,
peut-être de tension.
On ne l'a pas anglais de cette façon-là, on l'a anglais sur on va vous faciliter la vie, ceux qui voudront, bien sûr sur la base de l'anonymat, du volontariat, venez vous faire vacciner. Encore une fois, sous réserve de notre autorisation.
Mais vous pensez qu'une entreprise comme la vôtre doit prendre position fortement pour le vaccin en disant, nous, c'est comme ça la reprise?
Une entreprise comme la nôtre, elle doit pouvoir le proposer comme on le propose pour cette vaccination antigrippale. C'est comme ça qu'on s'est positionné et on pense que c'est important de pouvoir l'offrir. Après, viendront ceux qui voudront. Et encore une fois, il faut qu'on ait l'autorisation.
Et puis juridiquement, ça n'est pas possible pour une entreprise, le AXA comme une autre, de dire vous n'êtes pas vacciné. Enfin, on ne peut pas rentrer dans ce détail.
Dans un schéma de discrimination, absolument pas.
C'est
vraiment
légal.
Une proposition comme un accompagnement de nos collaborateurs, comme on propose un certain nombre de prestations. Par exemple, on a des journées sur la nutrition, des journées sur le sommeil. Ben, vous voyez, c'est la même chose. On propose la vaccination antigrippale. Eh bien, on pourrait proposer la vaccination anti-Covid.
Mais ça va peut-être être un outil d'attractivité. Vous recrutez tout cette année, c'est quoi, 5000 personnes par an?
Exactement.
Vous n'avez pas baissé le niveau de la jauge?
Non, on est resté stable. On continue à faire des recrutements des commerciaux. On croit beaucoup à une distribution phygitale. Donc, des commerciaux sur le terrain, hein, c'est la partie phygitale, le début du
physique,
mot.
Ouais.
Physique, voilà. Des informaticiens qui vont développer la partie digitale pour qu'on soit bien en phygitale. Et puis, bien sûr, des gens qui travaillent sur tout ce qui est la dynamique métier de l'assurance, des actuaires, des gens qui font les calculs statistiques, collaborateurs qui souscrivent, qui prennent les risques, donc tous ces métiers de l'assurance. Voilà, et donc on souhaite continuer parce qu'il est très important de continuer à développer l'entreprise.
Sur les stagiaires, sur les alternants, tout ça, il y a eu une baisse de la jauge?
On a tenu tous nos engagements pendant le premier confinement déjà. Et là, on a même augmenté de 10% cet été pour pouvoir accompagner et donner la possibilité à des jeunes de faire des alternants chez AXA. Alors, chez AXA, évidemment, c'est à distance aujourd'hui. Et donc, on accompagne. Et on a eu des managers formidables parce qu'ils nous ont donné 10% de mission en plus en disant, je m'engage, je vais accompagner les collaborateurs.
Alors,
et
comment ça, ils font quand ils arrivent, ces stagiaires? Mais c'est valable aussi pour les nouveaux entrants.
C'est valable pour les nouveaux entrants. En fait, on fait un process d'onboarding à distance. Donc, on les accueille au travers de nos outils distanciels comme Teams. On fait des rendez-vous, on fait des présentations à distance. Voilà, on a essayé de transposer le présentiel en digital. Et je ne suis pas sûre que ça soit simple d'être alternant à digital. Mais les managers les encadrent, les collaborateurs les aident. Et voilà, et nous, on soutient en tant que RH le fait qu'on puisse fonctionner de cette façon-là et cet accompagnement. Voilà.
Sur ces 5000 recrutements, vous allez avoir des difficultés. Il faut attirer ou ça vient tout seul par les canaux classiques?
Alors, il faut toujours être présent sur les réseaux, dans les forums où on parle des métiers. Donc, je vais dire, c'est ni plus facile ni plus difficile. En fait, il faut toujours être présent et il faut s'habituer juste à se transposer. On était déjà très phygitaux, hein. Mais évidemment, on va pas faire un escape game physique, par exemple, dans nos locaux. Donc, on fera différemment. On va faire des réunions et des webinars Teams. On va faire des rencontres à distance. On va
être présent. Mais c'est quoi la promesse de recrutement quand vous rentrez chez AXA? Vous avez fait votre raison d'être, comme j'ai envie de vous dire, comme tout le monde. La vôtre, c'est agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte.
Exactement.
Moi, une fois que vous m'avez dit ça...
Notre métier d'assurance, c'est protéger. C'est protéger les personnes, votre famille, c'est protéger votre habitation, protéger votre voiture si vous en avez une, protéger les usines, protéger les bureaux. Voilà, c'est ça. Et donc, on va expliquer ce rôle de protection qui est un très beau rôle. Donc, on explique notre raison d'être. Et puis derrière, tout ce qui va avec, quand on entre chez AXA, voilà ce qui va se passer. On va avoir quelqu'un qui va être un facilitateur, quelque part, qui va nous aider quand on est nouvel entrant chez nous. Et puis, on va avoir des rendez-vous réguliers. Voilà comment on va le gérer. Et puis, vous savez, entrer chez AXA, c'est aussi entrer dans une entreprise qui est citoyenne, qui a des actions. C'est faire du pro bono aussi. Hein, c'est cette possibilité-là qu'on va donner. C'est aussi rentrer dans toute notre dynamique autour de la RSE, qui est quelque chose de très important.
Ça veut dire justement que vous cherchez des profils de gens qui ont un engagement associatif, qui ont une vision sociale particulière. Vous cherchez ce type de profil?
En tout cas, ça fait partie de l'engagement, ça fait partie de la personnalité.
Ouais.
C'est un plus, ça fait partie de la personnalité. C'est intéressant de savoir que on est engagé dans une association. Ça veut dire qu'on a un engagement. Ça veut dire qu'on est prêt à partager aussi un jeu collectif. Je crois énormément au jeu collectif JE, mais aussi JEU. C'est-à-dire comment on intègre un collectif. De plus en plus, on travaille en collectif. On a des task force, on a des projets. On va s'engager dans un projet, on va manager un projet. Ben voilà, être dans une association, c'est jouer collectif. Faire du sport, faire du rugby, c'est jouer collectif, etc. Et donc, c'est Toute cette dynamique-là, elle est importante pour caractériser aussi la personnalité.
Et comment vous arrivez à évaluer justement chez vos futurs candidats leur capacité à travailler collectivement tout seul de chez eux ?
Alors, c'est plus complexe aujourd'hui, mais en même temps, les projets et la transposition qu'on fait des escape games dans la rencontre que l'on fait, dans le fait de pouvoir partager des moments en Teams avec les autres, eh bien, c'est aussi la façon dont les collaborateurs peuvent s'engager. Et vous savez ô combien les soft skills sont importantes aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les compétences professionnelles relationnelles. Mmh. Ben ça, pour moi,
vous avez
c'est
mis
de l'agilité
très
relationnelle.
Vous avez mis très fortement l'accent sur les soft skills.
Très fortement, ils font même partie des évaluations aujourd'hui, au sens compétences professionnelles relationnelles dans un job. Mmh. Mais pour moi, en fait, cette crise, elle a révélé des choses sur lesquelles on s'était déjà embarqué. De l'agilité relationnelle, c'était déjà vital. Mais en fait, ça l'est encore plus. De l'agilité digitale, hein, il faut savoir se servir des outils.
Et même émotionnelle.
Exactement. Et de l'agilité managériale. Je pense que cette crise, elle révèle ça. Et en fait, c'est aussi ce qu'on cherche, cette agilité relationnelle et digitale.
Vous allez avoir le droit au même questionnaire que tout le monde. Vous me dites si on continue ou on arrête. Est-ce qu'on continue ou on arrête avec les CV ? Puisque vous êtes très soft skills, on arrête ?
On continue, il faut de tout, même des CV qui nous arrivent, on les réceptionne, on les prend, on les met dans nos viviers et puis on voit si on a les jobs pour.
Les horaires, on continue ou on arrête ?
On a tout sur les arrêts, on continue, il y a des horaires, ça c'est légal, et puis il y a le fait qu'on a variabilisé complètement le dispositif, on le sait bien dans le monde d'aujourd'hui.
Les tests de personnalité, vous en faites ou pas ?
Non, on arrête.
Ça c'est niette. Les Teams, bon, on est obligé, hein, on continue.
Oui.
Les team building, vous êtes très escape game.
Alors on est
très game. Envie.
Alors, les team building, il faut les continuer, mais apprendre à les faire en distanciel. Et le jour où on pourra, en présentiel.
Il y aura de l'escape game hein, chez AXA quand on pourra.
Je pense que c'est important de partager des moments.
Les chief happiness officer, vous en avez ?
Non.
C'est niette. Les feedbacks à toutes les sauces, on continue ou on arrête ?
Il faut le faire dans une dynamique proactive et intéressante pour que ça apporte quelque chose.
Les entretiens de fin d'année, vous en faites ou pas ?
Oui, on en
toujours.
Fait. On est en plein dedans.
Bien cadré, avec des petites cases, on continue.
Oui, puis un échange entre le collaborateur et le manager, c'est très important. C'est des moments privilégiés, ça.
LinkedIn, quelle est votre relation, vous, personnellement, avec LinkedIn ?
Alors, moi, je réponds quand on m'envoie des CV ou des demandes de job ou de stage. Je ne suis pas sûre d'être très réactif. Donc, j'ai encore des progrès à faire.
Ah, vous répondez déjà, c'est quand même pas mal.
Ouais, écoutez.
C'est déjà un gros pas. Attention, je vérifie. Hein. Après, quand on me
vous
dit qu'on
regarder,
répond.
Vous pouvez y aller.
Merci beaucoup, Diane de Perrois, d'avoir été avec nous, DRH d'AXA France. On va parler frais professionnels. Bah, on n'a plus grand-chose à dépenser, mais on va voir où est-ce qu'on met l'accent en 2020.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
On est avec Karim Jouini, fondateur et président d'Expansia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des notes de frais. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça existe encore, les notes de frais. Vous venez de réaliser un baromètre sur les dépenses professionnelles. C'est la troisième année. Ça existe encore, les frais professionnels ? On ne voyage plus, on ne va plus nulle part, on ne mange plus au restaurant. Il reste quand même quelques petites choses, mais globalement, beaucoup ont disparu.
Alors oui, mais c'est contre-intuitif. Nous, ce qu'on appelle les frais professionnels, c'est l'ensemble des dépenses qui impliquent le salarié. Donc, ce n'est pas forcément lié à l'image qu'on a des notes de frais, donc ce n'est pas forcément le voyage, c'est l'ensemble des frais qui vont faire le lien entre l'entreprise et le salarié. Donc ça va être, je vais acheter une imprimante parce que je travaille chez moi, ça va être le télétravail, ça va être la gestion des déplacements quotidiens, donc Navigo, etc. Donc on gère tout ça. Et donc comme vous venez de dire, on publie un baromètre chaque année qui permet de voir les tendances dans ce type de dépenses. Donc les années précédentes, les tendances allaient être, par exemple, la montée d'Uber ou d'autres sujets.
Ouais.
Et celle de cette année, elle est super intéressante parce qu'elle permet, dans une même année, de voir avant le confinement, pendant le confinement, et la tendance de ce qui est en train de se passer post-confinement, même si on n'en est pas encore
sorti.
Alors,
qu'est-ce qu'on voit ? Que la voiture individuelle fait son grand retour ?
Alors oui, donc évidemment, on voyage beaucoup moins et beaucoup moins loin. Donc, plus d'aériens, plus de trains, ré-effondrement de ces moyens de transport-là. Par contre, les déplacements pro qui restent favorisent la voiture, avec une montée de plus de 40% de dépenses supplémentaires par rapport à l'année dernière. Donc autant des frais kilométriques, c'est-à-dire quand j'utilise ma voiture personnelle et que je me fais rembourser par l'entreprise, ou de location de voiture.
Donc moins de remboursement de transport en commun aussi, le pass Navigo en Ile-de-France, il y a des entreprises qui commencent à dire « vous ne l'utilisez pas, j'arrête ».
Alors oui, on commence à voir cette tendance,
ouais.
C'est-à-dire que les entreprises disent, évidemment pendant les mois de confinement complet, les entreprises ne devraient pas rembourser le Navigo. D'ailleurs, elles n'ont même pas le droit de le faire, même si certaines ont continué. Par contre, aujourd'hui, avec des changements de comportement de travail, on voit que des entreprises mettent en place le télétravail partiel. C'est-à-dire, je viens un jour par semaine, je viens deux jours par semaine. Et se pose réellement la question de qu'est-ce que je fais de ce Navigo ou des équivalents en région versus des moyens de transport plus doux et moins chers pour l'entreprise et moins chers pour le salarié.
C'est quoi, c'est le vélo ?
Alors, c'est le vélo, c'est la trottinette, c'est tout dépend bien sûr de à quel point c'est urbanisé et de ce qui est possible. Et justement, le législateur a sorti une loi qui s'appelle le forfait mobilité durable, qui permet à une entreprise de dire, si on prend l'exemple parisien, sur accord salarial, de ne plus rembourser le Navigo, mais d'allouer 400 euros par an et par salarié en multimodal. Donc, autant l'achat du vélo que les frais kilométriques vélo, que la réparation, que la trottinette. 400 euros par an, ce qui est à peu près l'équivalent du Navigo.
Ouais.
Parce que les entreprises remboursent la moitié du Navigo, ça donne à peu près ça. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit ces comportements s'inscrire. Et c'est là où je vous disais que les frais pro, c'est bien au-delà des notes de frais. Ce type de dépense est bien géré dans Expensia par nos clients, parce que sinon, pour eux, c'est ingérable de gérer autant de dépenses.
Donc la grosse évolution, évidemment, c'est le télétravail. Est-ce que la chaise de bureau, les crayons, tout ça, ça devient une dépense prise en charge par l'entreprise ? Il n'y a pas d'obligation légale, mais est-ce qu'il y a des évolutions de comportement des entreprises ?
Alors, il n'y a pas d'obligation légale. Il y a également des petits risques, des fois, à aller trop loin dans le remboursement. C'est-à-dire que l'URSSAF est assez dur sur ce sujet-là. Maintenant, ça se met en place. Et on l'a vu beaucoup au premier confinement, où des entreprises se sont retrouvées complètement démunies. C'est-à-dire qu'elles avaient des postes de travail classiques, PC fixe, pas d'ordinateur portable, les salariés pas forcément équipés, ils ont pas de fibre optique, non pas les et donc les entreprises ont dû mettre un vrai budget.
Alors qu'est-ce que vous voyez par typiquement ?
Alors ce qu'on voit typiquement, la première dépense c'est l'imprimante, surprenamment.
Pour les imprimer quoi ? Des mails ?
Pour pouvoir faire des signatures, pour pouvoir faire un certain nombre de sujets. Deuxième chose, la chaise de bureau. Les laptops, donc évidemment,
l'ordinateur portable
c'est
personnel.
Pas si simple à mettre en place tout de suite pour tous les salariés, mais ça a été mis en place. Ensuite,
l'imprimante avant l'ordinateur portable, ce qui n'est pas forcément intuitif.
Non,
j'aurais commencé par l'ordinateur portable, mais...
C'est vrai, mais parce qu'il y a une part assez importante d'entreprises qui sont déjà équipées d'ordinateurs portables,
d'accord.
En réalité. Parce que le télétravail, ce n'est pas 100% une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'il soit... aussi répandu, mais le télétravail existait bien avant. Aujourd'hui, c'est juste devenu une obligation à certains moments de l'année. On voit également les dépenses de télécommunications, donc forfait mobile, partie de la fibre optique. L'URSSAF a fini par publier des recommandations sur qu'est-ce qu'un remboursement acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Et qu'est-ce qu'elle dit ? La fibre optique, c'en est un ? Remboursement acceptable ?
Elle dit qu'il faut que ça soit un pourcentage des dépenses de télécommunications ou un forfait. Donc elle a mis en place des forfaits qui sont entre 10 et 50 euros
d'accord.
par mois, qui permettent aux entreprises de rembourser soit une somme forfaitaire, soit de rembourser un pourcentage de la facture. Et donc ce qu'on fait, nous, pour nos clients, c'est qu'ils peuvent paramétrer Expensia pour dire je rembourse 50% de l'abonnement de téléphone, 80% de la fibre, etc. Et tout est ensuite automatisé par l'outil.
Vous voyez des DRH un peu perdus là dans la question des dépenses, ne serait-ce que pour ne pas être hors la loi. Parfois il y a une volonté, mais on ne connaît pas bien le cadre juridique.
Oui, clairement.
Ouais.
Clairement, c'est un vrai sujet. La réglementation a changé plusieurs fois. Certaines sont contraignantes, d'autres non. La partie télétravail, par exemple, n'est pas contraignante, mais c'est une recommandation de l'URSSAF de dire faites un accord entreprise et faites-le. Donc nous, par exemple, ça fait partie des demandes qu'on a de nos clients et des services qu'on fournit, c'est de leur dire voici le cadre légal ou voici comment vous pouvez paramétrer l'outil ou on va vous le pré-paramétrer pour que vous n'ayez pas cette anxiété légale ou fiscale sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que j'ai pas le droit
de faire. Parce que le problème, c'est la multiplication des questions personnelles, quoi, du cas par cas, de la gestion salariée par salarié.
La législation, elle est un petit peu en train d'aller vers ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était simple. Je pouvais dire, par exemple, pour les Parisiens, c'est le Navigo, point. Donc, quelle que soit la situation de chacun et est-ce qu'il va vraiment l'utiliser ou pas. Maintenant, on va vers comment je flexibilise et comment je gère au cas par cas. Et c'est pour ça que des entreprises comme nous ont une très forte croissance, parce qu'on permet de fluidifier tout ça.
Merci beaucoup Karim Johnny d'être venu nous voir, fondateur et président d'Expensia. On va parler de LinkedIn, comment être discret tout en étant efficace.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
Et on va faire ensemble un point LinkedIn. Je suis avec Karine Van Der Schrik. Vous êtes fondatrice du site jesuisunhéros.com. Vous accompagnez des gens en recherche d'emploi vers un emploi, ce qui est le but. Comment on utilise LinkedIn quand on cherche un emploi sans que tout le monde le sache, surtout pas vos collègues et surtout pas votre chef ?
Eh ben, il y a une seule solution. La première, c'est déjà de prendre son temps. Parce qu'il faut se construire un projet professionnel. Il faut prendre son temps pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on ne veut surtout plus faire et qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire. Donc prendre du temps pour soi, se créer un projet professionnel via aussi la formation. D'accord. Ensuite, sur LinkedIn, effectivement, utiliser les réseaux sociaux. On dit souvent que 80% des offres sont pourvues par le réseau. Ça, c'est très important. Le réseau, c'est pas que les réseaux sociaux, ça peut être le réseau humain aussi, les relations qu'on connaît. Et ça, il faut commencer à cartographier un petit peu ce réseau. Mais pour revenir à LinkedIn, ce qui est très, très, très important, c'est qu'il ne faut jamais l'abandonner. Il faut toujours s'occuper de son LinkedIn, même quand on est en poste, même quand tout va bien.
Alors du coup, même, il faudrait le créer son profil et laisser un peu actif quand on cherche pas de travail, au cas où un jour on en aurait besoin.
Exactement.
Il faut mettre en place une stratégie, quoi.
Exactement. LinkedIn ne s'improvise pas. De toute façon, la recherche d'emploi ne s'improvise pas. Ça, c'est très clair. LinkedIn, vous devez avoir un profil complet, parce que la chose à savoir aussi, c'est que avant de toucher l'humain qui va être en face, ben il va falloir toucher l'algorithme. Et l'algorithme, il a quelques règles. Et ces règles, il faut les mettre en place, il faut les suivre. Par exemple, avoir un profil très complet, avoir une photo de profil, on ne le répétera jamais assez, une photo de profil, c'est pas une soirée avec un copain qui a l'épaule, le bras sur votre épaule, c'est une photo professionnelle qu'on peut très bien faire avec son propre smartphone aujourd'hui. C'est avoir toutes les informations bien mise, complète, c'est avoir un résumé complet, c'est parler un petit peu de votre activité et c'est surtout ne pas considérer LinkedIn comme un site de recherche d'emploi. LinkedIn n'est pas un site de recherche d'emploi, c'est un site de mise en relation entre différentes personnes qui ne se connaissent absolument pas, pour beaucoup, d'accord, parce qu'une fois que vous avez fait votre premier réseau où vous demandez à vos copains, votre famille, votre conjoint de vous accepter, c'est d'aller apprendre à connaître des gens qui ne vous connaissent pas forcément. D'accord ? Et puis leur donner confiance. Et cette confiance vient s'instaurer au fur et à mesure du temps, et les gens vont apprendre à vous connaître parce que vous allez commenter des posts sur des personnes qui sont un peu plus influentes sur la recherche d'emploi. Je vois par exemple Christelle de Foucault ou Hélène Lee, parce que c'est vrai qu'elles aident beaucoup les personnes qui cherchent un emploi, mais elles ont aussi des recruteurs dans leurs connaissances et ça peut matcher parfois comme ça. Donc la première chose, mettre un profil bien à jour, le tenir régulièrement.
Mais ça veut dire que quand ça va bien dans son job, il faut s'occuper de son moi du futur qui n'ira peut-être pas forcément aussi bien dans quelques années et préparer sa recherche, travailler à son employabilité en tout le temps en fait.
Exactement, exactement, puisqu'on sait aujourd'hui que de toute façon, on fera plus toute notre carrière, on reste pas 30 ans dans la même entreprise. On sait que ça va bouger à un moment donné. Bah, puisqu'on évolue, et bah, il faut juste faire une mise à jour au quotidien. Et à un moment donné, votre ordinateur, si vous faites pas les mises à jour, à un moment donné, il fonctionne plus. Donc vous, c'est pareil, vous devez faire les mises à jour. Pourquoi ? Parce qu'en plus, si vous ne mettez pas à jour, à partir du moment où, comme vous le disiez tout à l'heure, vous mettez à jour votre profil LinkedIn, les gens se disent « Ah,
il cherche un boulot, et puis, il veut se barrer ».
Exactement. Et pire, vous vous mettez vous en position de faiblesse.
Bah oui.
Pourquoi en position de faiblesse ? Parce que vous êtes en position de je vais quémander un emploi. Pas du tout. Vous êtes juste ouvert.
Tout le monde est un winner sur LinkedIn.
Tout le monde n'est pas un winner parce qu'il faut savoir l'utiliser. Se dire aujourd'hui, et moi j'entends beaucoup de mes héros qui disent ça, se dire aujourd'hui oui, mais on m'a dit qu'il fallait que j'ai un profil LinkedIn, c'est vrai. Mais il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on cherche un nouveau job ? Est-ce qu'on veut juste être mis en relation parce qu'on cherche à faire des relations commerciales ? Il faut savoir pourquoi on est sur LinkedIn.
Karine, on n'a pas tous une histoire professionnelle de dingue à raconter. Le marketing professionnel, c'est dur.
C'est clair, c'est clair. Et en plus, de toute façon, LinkedIn n'est pas fait pour tous les métiers. Éventuellement, vous me dites, moi je suis boulanger, je veux trouver un boulot, je vais sur LinkedIn, ça n'a aucun intérêt. Mmh. LinkedIn est beaucoup plus, entre guillemets, corporate. On est sur des métiers de prestation de services, des services aux entreprises. D'accord ? Donc là, on va être sur le marketing, sur la communication, sur des métiers comme ça. On n'est pas tous des talents. C'est clair. On a tous parfois un job. On fait très bien notre boulot, mais on n'a pas tous forcément du talent qui s'entretient. D'accord ? Mais sur LinkedIn, soit on se fait aider. On peut se faire aider par des personnes. Il y a des personnes qui vont vous aider à trouver des mots-clés par rapport à ce que vous êtes. Parce que c'est pas toujours que des compétences. Ça peut être aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, les aptitudes, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Et ça, il faut savoir le mettre en avant. Savoir parler de soi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est la même chose pour le CV. De savoir trouver les bons mots, les mots-clés qui vont matcher et qui vont matcher l'algorithme avant de toucher l'humain. C'est ce que je disais tout à l'heure.
touchez l'algorithme avant de chercher l'humain et entretenez votre profil LinkedIn tout au long de votre carrière. N'attendez pas d'en avoir besoin. N'attendez surtout pas d'en avoir besoin. Merci beaucoup, Karine Van Der Schrick, d'être venue avec nous, fondatrice de jesuisunhéros.com.
Merci beaucoup.
C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.